Je vais mettre mon chronomètre, si vous permettez. Et puis, je vais aujourd'hui travailler avec vous sur une thématique négociée avec l'IFE, avec Marie-Odile, construction et accompagnement dynamique des parcours d'élèves allophones à travers la variété des situations éducatives. Et puis, tout d'abord, poser une problématique. Pourquoi faut-il penser la formation des acteurs de l'école à l'inclusion des enfants allophones arrivants d'abord comme une dynamique maïeutique? Puis quel intérêt y a-t-il pour un CASNAV à penser ou fonder ou déployer une politique linguistique comme maïeutique de formation généralisée dans son académie? Alors déjà quelques définitions. Ce qu'on entend par maïeutique, ce qu'on entend par inclusion, pardon, c'est pas ce qu'on croit généralement, une chose, un produit ou un résultat statique lié à l'exercice de la bonne volonté toute puissante ou charitable des uns ou des autres, mais c'est un mouvement, c'est un processus professionnel, c'est une série d'opérations qui engagent toutes les personnes en présence et leur permet d'agir sur elles-mêmes et de se transformer elles-mêmes en prenant conscience de leurs propres ressources. L'inclusion fait intervenir la pensée et l'éthique, la sensibilité de chacun des impliqués, leur posture sociale et professionnelle, accueillir, scolariser et suivre l'élève allophone, c'est changer de paradigme, mettre au centre du travail les tensions, le temps, le devenir, la progression. Nous avons essayé dans les équipes du CASNAV de Besançon de dépasser la réduction de l'accueil à un moment bref, celui du fameux positionnement initial. Il a pour défaut de concevoir les identités comme homogènes, monolingues et fixées, fermées. Et on s'est dirigé plutôt vers une réflexion autour de la construction plurilingue, ouverte et libre dans le temps, surtout. Un terme aussi que j'ai utilisé, c'est la maïeutique. Et la maïeutique inclusive, alors la maïeutique vient de Socrate, c'est l'art d'accoucher les esprits. La maman de Socrate elle-même était une fameuse sage-femme. Il a sans doute pensé par métonymie. C'est l'idée de dévoiler les interactions, de révéler les situations réelles des élèves dans des contextes caractérisés territorialement, professionnellement et sociologiquement. Et cette maïeutique, c'est aussi le guidage nécessaire. C'est la médiation vers la prise de conscience réflexive et co-construite du geste professionnel. La méthodologie de cette maïeutique inclusive, elle se fonde avant tout sur la coopération, la construction collective du geste professionnel. Comme ça a été évoqué d'ailleurs en 2012 lors de notre table ronde sur la professionnalité que Marie-Odile avait déjà organisée avec les CASNAV et avec Régis Guyon du département éducation et société. En tout cas, on avait validé à l'époque que c'était une pratique fructueuse, le travail collectif autour de la situation de l'élève. Alors, dans l'Académie de Besançon, on est parti d'une logique de transfert. On a on avait évidemment des volets de formation qui étaient destinés de formation généraliste, qui étaient destinés aux collègues des dispositifs dédiés. Mais on s'est dirigé régulièrement, depuis une dizaine d'années, vers la question de l'apport concernant les élèves hors dispositif de type UPE2A, alors que ce soit des élèves isolés ou que ce soit des élèves issus des UPE2A qui se retrouvent soit dans des collèges ordinaires, soit dans des lycées. Et puis par extension, on est en mesure d'étendre notre réflexion à l'ensemble des élèves allophones, y compris les élèves natifs, quand ils sont en difficulté par rapport à la langue française. On était passé d'une conception à partir des années 2000, d'une conception de type FLE à une conception de type français langue de scolarisation, centrée sur les besoins réels des élèves, porteurs de langue, de culture et de compétences minoritaires dans une institution. Donc on passe d'une pensée de type français langue étrangère dans les années 99-2000. Avec le BO de 2002, on passe déjà à autre chose, et notamment au besoin de français langue de SCO. Et en même temps que surgit ce besoin, surgit le besoin de construire des parcours dynamiques et progressifs d'inclusion vers l'ordinaire, de fonder la didactique de la langue vivante française sur les besoins réels d'un élève défini sur le plan linguistique et scolaire, en allant chercher la langue française dans les variétés de langues de l'école, mais aussi dans les opérations, les compétences propres aux disciplines. Le besoin aussi d'apporter des aménagements, des conseils, des pratiques, des techniques, des préconisations transférables aux équipes ordinaires, notamment celles qui reçoivent des élèves isolés. Alors pourquoi doit-on penser la dynamique inclusive comme un processus d'éco-formation de tous les sujets impliqués? Évidemment, ce « et » entre parenthèses nous renvoie aux stratégies d'éco-formation telles qu'elles ont été pensées, notamment par Mirna Montenegro au Portugal, qui nous a beaucoup aidés et avec qui on a beaucoup travaillé au cours de ces dernières années. Pourquoi on doit penser la dynamique inclusive comme un processus d'éco-formation? D'abord parce qu'il existe un insu particulier au français lié à son histoire et à ses structures linguistiques et scolaires qui sidèrent les adultes dans l'école et qui interdit de penser la langue comme une langue vivante ou comme un phénomène naturel. Deuxièmement, parce que dans le cadre d'une didactique du français langue vivante confrontée à l'usage du français comme langue de scolarisation, on ne peut pas faire l'économie d'une révolution à accomplir obligatoirement. Et quand je dis révolution, c'est au sens étymologique du terme, un changement, un tour complet, un changement à 360 degrés, un renversement complet à opérer en termes didactique par rapport à l'habitus scolaire, et je m'en expliquerai. Pourquoi penser aussi la dynamique inclusive comme un processus d'éco-formation de tout le monde? Parce qu'il y a aussi des outils simples qui permettent de façon reproductible et rationnelle les dévoilements nécessaires et chers à Socrate. La vérité, l'aletheia grecque, on la montre et on ne peut plus revenir en arrière. Les situations de prise de conscience sont irréversibles, notamment chez les professionnels. Pourquoi ? Parce que l'appel nécessaire à la réflexivité de chacun comporte des risques professionnels pour les acteurs qu'il faut rendre supportables par une orientation, une scénarisation, une modélisation rationnelle, réflexive de l'expérience maïeutique. Il s'agit de fabriquer et de trouver ensemble une langue commune. C'est ça la vraie question. Et puis enfin, parce que l'inclusion concerne l'action à la réflexion de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'école dans leurs interactions en situation. Ça implique la mise en œuvre d'une politique linguistique académique à un niveau général, et notamment par la production de documents de médiation, de normes techniques dynamiques, et qui impliquent l'ensemble des acteurs de la scolarisation de l'élève allophone. Alors, je parlais d'un insu particulier au français. Tous les adultes qui forment l'écosystème scolaire autour de l'enfant, dont vous, sont avant tout des experts d'une chose, de la langue française elle-même, et notamment de la langue écrite, et dans ses variations scolaires implicitement normées, dont la forme orthographique est une des plus coûteuses à acquérir parmi l'ensemble des langues indo-européennes et des langues européennes. Quand je dis tous les adultes, c'est les profs, bien sûr, mais ce sont aussi les cadres, les éducateurs, les décideurs, tous les acteurs du système éducatif qui en sont sortis par le haut, et quelquefois même les parents. Les parents aussi sont experts de la langue française à leur façon, notamment sur des couples, vous savez, des couples où un des conjoints est français. On observe très souvent des injonctions très fortes sur l'élève allophone qui rejoint, par exemple, sa maman ou son papa. On reviendra plus tard sur le rapport graphiphonie originale du français, sur les mécanismes propres à la production écrite de la langue qui fabrique cet insu collectif. Mais une langue, c'est d'abord ça. Donc un organe physique, un organe qui produit avec d'autres des sons, un appareil phonatoire, qui produit des sons physiques, donc des objets mesurables, classifiables et avec lesquels on peut catégoriser une langue de différentes façons, les langues vocaliques, les langues consonantiques, la nôtre étant, ben on verra tout à l'heure. Et par métonymie, partant de cette langue, c'est un système naturel de signes linguistiques, vocaux, gestuels qui permet la communication entre les individus et qui, dans un contexte de conservation et de transmission, recourt à une forme graphique artificielle. Je vais vous donner des exemples. Voilà donc des représentations institutionnelles de la langue. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin, qui nous interrogent et qui pointent cet insu, c'est-à-dire ce que vous avez dans l'entrée de l'IFE. Alors si l'insu, vous ne le voyez pas, c'est qu'il est dans vos têtes et c'est que profondément, vous y avez affaire tous les jours. Mais sur cette image, il y a un hiatus. Oui, ils sont en train de parler en écrivant. Et sur la forme la plus canonique, la plus répétitive, et puis la plus absurde, finalement, d'apprentissage d'une langue vivante. C'est pas comme ça qu'on apprend à parler. Voilà ce que vous avez dans l'entrée de l'IFE. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, il date, vous arrivez à le situer, hein, il date des années 50. C'est avant la décolonisation du Maghreb, et c'est en fait ce qui fonde le français langue seconde, historiquement, hein, dans l'école linguistique française. C'est là où on invente cette notion. Ben voilà, le français langue seconde, tu vas l'écrire avant de le parler. Et puis, ben c'est pas fini, hein, regardez. Là aussi, l'allemand, on l'écrit. On n'a pas trouvé le moyen de visualiser la parole. En tout cas, cette insu dont on va décrire les causes est toujours source d'une profonde inégalité entre les interlocuteurs de compétences linguistiques différentes, comme les professeurs et les élèves allophones, mais aussi les élèves porteurs de variétés de langues qui ne sont ni légitimés, ni valorisés, ni reconnus dans l'école. Et je pense aussi à nos concitoyens intitulés aujourd'hui par les circulaires de 2012 « Élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs » qui font partie de la mission des CASNAV. Pour les professeurs sans formation en didactique de langue vivante, la langue française pensée comme un monolithe est opposée aux élèves comme mur ou barrière extérieure, alors que c'est d'abord pour eux-mêmes une colonne vertébrale intérieure et symbolique. Donc effectuer une médiation entre des élèves et des professeurs, poser des outils de formation de ces conditions est particulièrement périlleux, puisque c'est l'inconscient et l'identité linguistique, professionnelle et personnelle du sachant que vous allez toucher. D'où l'importance d'opérer un renversement complet en termes didactiques par rapport à l'habitus scolaire dans ces contextes. Le premier hiatus que vous rencontrez, c'est que entrer dans une langue vivante met au centre de l'action le besoin linguistique de l'apprenant. Les méthodologies FLE, c'est avant tout de donner le pouvoir à l'apprenant et de le mettre au centre, alors que vous intervenez dans un contexte canonique, un mode canonique, où vous avez une relation dominante-dominée par rapport aux apprentissages. Ça, c'est le premier hiatus que vous devez rencontrer en formation. Le deuxième hiatus, le voici. Alors, j'ai essayé de le schématiser hier, je galère un peu, mais ça n'a pas de précision mathématique, mais on le sait très bien, en linguistique, on n'est pas des scientifiques. Alors, sauf les phonéticiens. Voilà, en haut vous avez ce que c'est qu'apprendre une langue vivante. On commence par la compréhension orale, ensuite on va avoir des capacités de production orale, après compréhension écrite, et après on peut passer à la production écrite. Mais dans le système scolaire, ça se joue autrement. La dynamique est renversée, puisque la maîtrise de la langue de scolarisation, c'est d'abord la compréhension écrite au service d'une production écrite dominante et rarement de production orale et jamais de vérification de la compréhension orale, notamment par la production orale. Donc vous avez là un vrai hiatus, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous allez travailler en formation ne sont pas dans le même axe. Ce qu'on note aussi dans les équipes, c'est une méconnaissance complète des étapes didactiques d'entrée dans la langue, qui sont sérieuses aussi. On les voit dans les progressions de FLE, identification et désignation, utilisation des prédicats verbaux, ensuite intention prosodique élémentaire, ensuite lexique fondamentaux d'orientation, d'abord utilisé pour se situer dans l'espace et ensuite pour se situer dans le temps. C'est pas des gros mots, hein, je parle des prépositions, c'est tout, hein. Et puis ensuite, on arrive progressivement jusqu'aux objets qui permettent l'hypothèse, l'argumentation, par exemple. C'est ça que tentait de mettre en forme le CECRL à travers la notion de compétences langagières qui, jusqu'à présent, touchait la didactique des langues vivantes, mais pas du tout le pilier 1 du socle commun. Maîtrise de la langue française, qui, lui, est un texte national hors référence scientifique, linguistique. fixé, quoi, enfin fondé. En tout cas, pour mettre en situation et en acte le renversement nécessaire, il faut d'abord exposer et faire réaliser ces évidences aux professionnels et s'appuyer sur des outils de démonstration polyvalents, multiplier les stratégies, les contextes de formation et les publics touchés. Et la composition des groupes. Donc c'est comme ça que nous, on a fortement réduit nos stages thématiques, académiques, à inscription libre, et on s'est concentré sur des réponses actives et in situ, des réponses aux besoins d'écoles, de circonscriptions, d'établissements, de partenaires, et une mention spéciale pour notre collaboration avec l'Université de Franche-Comté, où là, on est dans un échange fructueux qui nous permet d'ailleurs de publier sur un sujet qui était au départ les enfants turcophones dans le système scolaire dans le Haut-Jura, mais qui aujourd'hui débouche sur quelle didactique de langue vivante pour la maternelle. Comment transférer cette question à la maternelle et donc voilà, les recherches sont en cours, mais vous pouvez déjà y avoir accès à travers le numéro de diversité sur les langues qui a été publié par le Canopée. Alors je vous parlais d'outils de formation simples permettant les dévoilements nécessaires dans des équipes. Je vais vous proposer trois exemples. Rapidement, il n'est pas question de vous les faire subir, il est plutôt question de vous les exposer. Le premier, c'est comment montrer la particularité de la langue écrite, comment la faire réaliser. Donc c'était ça, hein, voilà. Donc vous savez qu'écrire en français, c'est un principe simple, hein. Il s'écrit grâce au principe alphabétique, les lettres forment des syllabes, les syllabes forment des mots, les mots forment des phrases et les phrases forment des textes. Alors bon, déjà, c'est une expérience peut-être qu'on est en train de faire ensemble, vous l'avez lu, validez mentalement si oui ou non, si vous êtes OK avec ça. Et puis, enfin, en tout cas, si ça vous paraît proche ou loin de la réalité. Et puis, alors voilà, là, vous êtes devant un outil de formation utilisé collectivement dans le CASNAV de l'Académie de Besançon par l'ensemble des formateurs. Combien de sons voyelles en français? 36? 16? Bon, alors, les équipes, majoritairement, vont répondre 6. Vous le savez. Non, pas vous. Vous êtes des experts. Mais les équipes ordinaires, c'est-à-dire les gens dans l'insu, vont vous dire 6. Et ensuite, il faut distinguer la question physique du son de la question de la graphie. C'est déjà un premier travail. Combien de sons voyelles? Il y en a 15 en vrai. Combien de sons consonnes? Oui, mais c'est amateur. C'est amateur. 15 à peu près. Consonnes? 20. Voilà, vous avez affaire à une langue semi-consonantique, semi-vocalique. C'est déjà un premier élément, c'est important si vous rencontrez des élèves arabophones et que vous êtes avec des porteurs d'une langue consonantique ou des élèves parlant le thaï, porteurs d'une langue vocalique, à tons, et avec des tons qui sont aussi des tons lexicaux. Il y a 6 tons, il y a 18 voyelles, je pense, en thaï. Vous multipliez par 6 et vous avez une idée de ce qu'est une langue vocalique en termes de signification et avec des impacts, y compris sur la physiologie des apprenants. C'est pas le même hémisphère qui est développé. Ça, ce sont des choses que vous pouvez aussi expliquer clairement, c'est-à-dire aboutir à cette comparaison de langues. Et on arrive en fait au centre de l'affaire. Combien de façons d'orthographier au 1 10 7 Voilà, il y a tout ça. Ben oui, dans le rapport graphiphonie, là, vous entendez O et vous écrivez quelque chose. En gros, dans le rapport en France, vous avez... alors bon, bien, on va me dire il y a des exceptions, il y a des choses qui n'existent pas. Oui, bien sûr, il y a des raretés, mais il y a quand même une sacrée irrégularité sur la transcription des sons sur ce rapport-là. C'est-à-dire que par rapport au... J'essaie de retrouver le chiffre. Oui, enfin, en tout cas, on est sur 26 lettres d'alphabet, on est sur 36 phonèmes et on est sur 190 graphèmes en français, alors que le rapport de l'italien entre graphie et phonie est un rapport en 25-33, je crois. C'est-à-dire vous avez 25 lettres et 33... Vous avez 25 phonèmes, pardon, et 33 graphèmes pour y répondre. Vous voyez la nuance, c'est-à-dire il y a une complexité évidemment qui est relativement facile à montrer. Voilà toutes les graphies possibles des voyelles en français. Alors on ne va pas rentrer, hein, c'est un outil, ensuite on peut expliquer pourquoi, mais les collègues ont besoin d'avoir un éclairage là-dessus, sur le principe phonographique, sur le principe idéographique, ce que sont les morphogrammes et puis surtout quelles sont les raisons historiques qui ont conduit à ce qu'on porte une langue de type régalien, puisque c'est quelque chose qui remonte fortement à l'époque des rois, en tout cas de François Ier, et qui fait qu'on a une langue qui est une langue écrite qui est relativement incohérente par rapport à sa phonologie et qui structure toute la machine, notamment la machine éducative. Bon, ça, ce sont des choses qu'on peut montrer. Deuxième proposition, est-ce que c'est pareil ailleurs ? Facile, hein, il suffit de le montrer aussi. Alors ça, on peut le faire avec des élèves, on peut le faire avec les locuteurs présents dans la salle, puisque ici, il y en a. Vous reconnaissez la langue, c'est le portugais. Ben voilà ce que c'est qu'une langue phonétique. Regardez. « A lista de inscritos para cirurgia contava 174.492 utentes em junho com uma mediana de espera de tatatatatata. » La collègue du CASNAV de Grenoble, qui est agrégée de portugais, corrigera mon accent, mais... Hein. Galère. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que vous avez une lettre, un son, une lettre, un son, une lettre, un son. Et c'est relativement facile à montrer, y compris quand vous êtes dans des relations avec un professeur, un élève, sur un positionnement linguistique. En tout cas, montrer exactement ce que c'est. Et c'est valable pour le finnois, pour l'allemand, l'espagnol, le turc, le portugais, le néerlandais. J'en passe et des meilleurs. Ou utiliser les documents proposés par la DGESCO sur le portail, les documents de présentation de l'école en langue d'origine. Voilà le turc, qui lui aussi répond à un principe alphabétique, littéral. Troisième exercice, deuxième élément que je voulais vous montrer, comment faire une expérience de langue choc en français de scolarisation sans passer par... J'ai invité quelqu'un qui va nous apprendre l'arabe ou le turc pendant une demi-heure et après on va essayer de tirer des conclusions non expertes et non informées sur ce qui s'est passé en vrai. On a appris à dire bonjour, c'est utile pour les élèves, mais on peut guère aller plus loin. C'est d'ailleurs la même chose en fac, il y a toujours des modules d'apprentissage du chinois ou du russe qui sont hors sol. Comment ramener cette question de la langue choc dans le sol ? Ben voilà un exercice que vous trouverez, enfin en tout cas vous en trouverez des traces dans le bouquin de Jean-Marie Frisa, Accueillir un élève allophone à l'école élémentaire, qui est un membre du CASNAV de Besançon et qu'on a obligé à publier ce bouquin avant qu'il parte à l'université de Franche-Comté. Voilà. En tout cas, c'est lui qui l'a conçu. Je vous le montre rapidement. On commence comme ça. Donc on met des collègues en position d'école, interdit de copier, taisez-vous, faites ce qu'on vous dit de faire. Et puis en général, on fait l'exercice en langue. Alors moi, je le fais en portugais, Maud le fera en espagnol. Enfin, on peut improviser, on peut le faire en arabe, on peut le faire dans toutes les langues. En tout cas, il s'agit de faire ça. Et ce « ça », c'est ça. On passe d'une langue... on passe de cette langue qui est le tamoul et qui ressemble, ça ressemble à un exercice de mathématiques, hein. Il y a des éléments de mathématiques. Alors très tôt, on voit des collègues commencer à produire des hypothèses et à fabriquer la chose, hein. Et puis on passe au russe où là, on retrouve une syntaxe qui est une syntaxe indo-européenne, mais il y a toujours une graphie, une distance graphique. On va passer à cette langue qui est l'albanais, et là, qui n'est pas l'albanais, qui est un yougoslave dont on n'a pas de garantie. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, ce sont des parents d'élèves qui ont fabriqué ça, évidemment, hein. Mais donc, on n'est pas sûr de la langue qui est derrière. On s'est toujours posé des questions parce qu'on a l'impression de trouver du romani à la fin. Mais bon, bref, on commence à repérer des mots sur lesquels on peut s'ancrer, des mots qui sont cette fois identifiables parce qu'ils sont utilisés en caractère latin. On va terminer avec cet exercice en roumain cette fois. Et là, on est dans une langue latine. Et là, la langue devient transparente. La langue devient transparente. On arrive à ça. Enfin, elle devient transparente, pas pour vous maintenant, à cet instant-là, mais vous n'avez pas fait l'exercice. Je fais que vous le montrer. Ça donne ça. C'est ça le travail. En fait, c'est ça le travail. Il s'agit juste de faire ça. Donc voilà, on fait galérer des salles complètes sur « il s'agit juste de faire ça ». Avec tout leur insu, vous imaginez ce que ça réactive d'aller chercher dans leur vie ça. Vous savez combien de temps que les collègues n'ont pas fait ça. Par contre, leurs élèves le font tous les jours. Voilà, c'est ce genre de révélation qu'on propose en termes d'exercice et en termes didactiques. Et puis, alors, oui, pardon. C'est vrai qu'on aurait pu... Non, la question, elle est absolument juste. C'est-à-dire, après, il y a des briefings. Quand on regarde ce texte... excusez-moi, j'espère que je ne vais pas déborder, mais là, la salle m'interrompt. Là, par exemple, celui-ci, après, le boulot avec les collègues, c'est de voir ce qui est universel là-dedans. Ce qui est de la langue de scolarisation et ce qui est de la langue naturelle. Bah finalement, quand on a fait le tri, la langue naturelle, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Il y a les prépositions, il y a les articles de définition. Et puis, bah, tout le reste, ça s'apprend à l'école. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Même prénom, c'est artificiel. Je veux dire, mais... Et puis, il y a le possessif. Mais même prénom est artificiel. Enfin, ça, on ne peut le faire qu'à l'école. C'est pas la langue. Vous voyez, c'est pas la langue. C'est la langue de l'école. C'est autre chose. Bref, faut que j'avance. Bon, alors voilà, autre proposition, autre outil de formation, autre jeu avec les collègues. Alors je vous le dis vraiment, je vais le répéter souvent, mais en présentiel ou sans élèves. Mais en général, on commence à préférer travailler avec les élèves et les professeurs ensemble. Celui-ci, par exemple. Ce sont des applications. Est-ce que vous les avez déjà utilisées avec vos élèves en soutien linguistique? Est-ce que vous les connaissez? Non, je vais vous les montrer. Alors ça, c'est sur un téléphone, c'est sur une tablette. Mais regardez ce que vaut la barrière de la langue scolaire telle qu'on vous l'oppose face aux nouvelles technologies. Avec ces outils, vous allez pouvoir démontrer la perméabilité des corpus proposés dans les manuels notamment, et puis démontrer de façon expérimentale les interactions et les étayages possibles des élèves en temps réel, et notamment quand l'élève est en autonomie. Je reviendrai deux secondes, je vais vous les montrer. Comment j'échappe ? J'ai pas réussi à faire les liens. On va commencer par celui-ci. Regardez, il est tout bête. Alors, c'est mauvais film, tout, mais... Voilà, c'est ce bouquin-là. Il y a un texte en... Voilà, regardez-le. Qu'est-ce qu'il est en train de vous faire? Il vous sort le texte en anglais direct. Vous prenez n'importe quoi, il vous sort le texte en anglais. Il y a combien d'élèves, des grands, là, qui parlent anglais, en lycée, qui savent, et vous choisissez vos langues? Alors, on va pas... je ne suis pas en train de vendre un produit, hein. Quelle importance! Il s'agit d'avoir des branches pour se raccrocher à l'arbre, il s'agit de monter à l'arbre, il ne s'agit pas d'avoir, enfin, c'est là où l'insu travaille, c'est-à-dire on pense que la langue, elle doit être exacte d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas le problème, le problème est de rentrer dans un manuel scolaire sous forme écrite. Vous avez un élève anglophone et on sait bien aussi que la plupart des élèves avec une bonne scolarisation en arrière ont des niveaux d'anglophonie bien supérieurs. Vous utilisez ça, mais il n'existe évidemment pas qu'en anglais. Le défaut de ces produits, c'est qu'ils sont conçus pour des besoins d'anglophones dont vous n'avez pas encore une palette de langues suffisante. Mais ce sont des machines qui ne demandent qu'à travailler, à être alimentées en langue. Ce n'est pas à l'intérieur de la machine que ça se passe. Ça se passe ailleurs. Les logiciels sont alimentés et sont mis à jour de façon permanente. Donc au niveau de l'exactitude, on est déjà à des années-lumière de ce que proposaient les traducteurs avant. Donc cette question de l'exactitude, ce n'est qu'une question de normes, mais elle n'est pas importante. Et celui-ci permet à l'élève de se raccrocher en temps réel dans un lycée à ce qui lui est proposé. Deuxième proposition, celui-ci, qui est peut-être beaucoup plus... Alors celui-ci est dans toutes les langues. Il y a des possibilités dans toutes les langues. On a pris le mauvais exemple, on a pris le turc. Donc effectivement, sur la question de l'écart linguistique, une des langues les plus éloignées des langues indo-européennes. Vous savez, les enfants turcs qui ne réussissent pas à l'école en permanence. Mais on ne se pose jamais la question de la génétique de leur langue. Ce n'est pas une langue indo-européenne, c'est une langue qui a plus à voir avec le mongol et avec les langues sibériennes qu'avec les langues latines et les langues anglo-saxonnes, etc., etc. Voilà pourquoi les élèves turcs galèrent autant. Vous allez voir, ils galèrent pour le turc aussi. Hein. Il s'appelle Tex Graeber. Mais par contre, il est nickel en portugais, en anglais. Alors là, voilà, vous êtes devant un manuel, vous sélectionnez le morceau et il vous le traduit directement. Et vous conservez ces morceaux. Et vous pouvez faire ça sur des cahiers, sur le cahier du voisin. Il vous faut une tablette ou un téléphone portable et ça y est. Vous savez ce qu'il y a dedans. Et vous conservez les corpus et vous avez des branches pour vous accrocher, pour monter. Non, mais tu l'as, il est bien en persan, hein, c'est ce que disent les élèves sur Belfort. Ouais. Mais ce sont des choses qui vont être alimentées. Le dernier que je vous présente, et puis on arrêtera là parce qu'il faut que j'avance, c'est le vocre. Le vocre, vous mettez la tablette entre un élève, c'est peut-être pour des positionnements initiaux, vous parlez... La reconnaissance
Bonjour,
vocale l'utilise. Voilà, vous voyez que je suis à la recherche pour le livre, c'est pas terrible, hein, mais n'empêche que pour comprendre ce que ça veut dire, c'est pas mal. Ou ce que l'autre est en train de dire. Bref, je vous ai pas mis le balabolka qui est présent, mais par exemple, ce balabolka est quelque chose, si vous le connaissez, quelque chose de super important. C'est gratuit et ça permet de vocaliser tous les textes. Donc vous rentrez les textes et votre élève part avec une image sonore exacte à la maison. Ça permet de renverser la question de production orale, compréhension orale. Là, il y a des outils à emmener à la maison pour... En tout cas, l'appel nécessaire à la réflexivité de chacun comporte des risques professionnels pour les acteurs qu'il faut rendre supportables par une orientation, une scénarisation et fabriquer une langue commune. Entrer dans le besoin et la médiation sur des logiques de formation... C'est aussi entrer dans une méthodologie d'intervention qui ne peut pas être frontale et qui ne peut pas être injonctive. Ce que les professeurs du UPE2A connaissent bien. On ne peut pas être le formateur de ses pairs quand on est en UPE2A. On ne peut pas aller en salle des profs dire « je vais te former sur telle situation », notamment dans des contextes d'insu aussi puissants. Alors, la maïeutique, elle peut être une action solitaire. Bien sûr, certains y arrivent, hein, à négocier à l'intérieur de leur établissement. Mais surtout, ça peut être beaucoup plus efficace quand c'est appuyé sur un réseau d'expertise renouvelé et de formation actualisée, tel qu'en développent les CASNAF. Ça permet de trouver la bonne distance d'implication, notamment dans des circonstances où on travaille avec des publics marginalisés sur Lyon. Si vous travaillez avec des Roms, vous avez intérêt à avoir les reins solides pour pouvoir négocier en salle des profs sur ce qu'il y a à faire exactement dans ces situations-là. Le problème de cette position maïotique, c'est de ne pas être au centre, mais de créer des situations d'explicitation pour considérer globalement un écosystème dont on fait aussi partie comme expert sollicité ou comme acteur, locuteur, observateur, mais aussi comme participant institutionnel de l'économie générale du système. Je vais lister les pratiques qui me viennent ou qui me sont venues pendant que je rédigeais cette conférence. Moi, tout ce que je vais vous décrire, on le fait dans des établissements... en stage d'établissement réduit, en visite conseil d'école, en rencontre parents-élèves-équipe, en démarche de positionnement linguistique et scolaire à l'arrivée, en accompagnement d'équipes éducatives dans les foyers. Et la plupart du temps, on le fait, je vous l'ai dit, en présence des élèves. Les pratiques qui me viennent ou qui me sont venues, déjà travailler sur des terrains précis à la formation des équipes, mais toujours autour de situations réelles. Partir du principe qu'il n'y a pas de formation initiale à la didactique des langues vivantes dans les équipes, ça d'accord, mais que le premier à se former en fait dans cet écosystème, c'est l'expert de passage. C'est lui qui a besoin de comprendre ce qui se passe sur le site, quelles sont les ressources, les situations d'élèves et les fonctionnements des équipes elles-mêmes. Autre point de pratique, travailler collectivement et en empathie. Parce que la maïotique, ne peut pas s'effectuer sans douceur, et puis elle ne peut pas s'effectuer non plus sans les collègues, les élèves, et que l'information théorique qui descend ne suffit jamais à régler les questions. Vous pouvez dire 1000 fois, attention, les arabophones, ils ont que 3 voyelles, tant que c'est pas réalisé, ça ne veut rien dire. Notre idée aussi est d'intervenir a posteriori, parce qu'il y a toujours une projection qui se construit sans nous, elle se construit avant l'intervention, et en fait, c'est plus rentable parce qu'il y a déjà des nœuds entre les individus. Intervenir sur une équipe, Parce qu'un gamin vient d'arriver à intervenir le jour même, c'est intervenir dans l'urgence et sans bille. Alors que quand vous laissez un petit peu de temps, des choses se construisent. Et ensuite, votre intervention permet de fluidifier les rapports en instituant une reconnaissance publique de l'élève, de son identité, et puis du rapport créé aussi par sa présence d'allophone. Un élément important, suivre les élèves, se donner le temps. On en avait parlé aussi pendant les tables rondes sur la professionnalité, les suivre dans des contextes réels, des ateliers de lingerie en lycée professionnel, voir un cours de maths en CP, une activité de danse en maternelle, des activités pro pour des mineurs isolés dans un foyer éducatif, comme ça nous arrive aussi. L'idée est d'observer, de chercher la langue sous tous les objets, les rituels, les écrits, les actes, les procédures, pour ensuite réfléchir aux conseils. Il faut déjà voir ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, en fait, dans la machine. Donc, l'expert, lui, il va voir. Il suit des élèves. Il observe et il réfléchit à ce qu'il y aurait de plus naturel à mettre en place ensuite, quand on sera parti, quand il n'y aura plus comme unique trace que le rapport qu'on aura laissé. Réfléchir aussi à la position des enseignants et leur utilisation des didactiques traditionnelles et comment on pourrait ajouter des techniques issues de la didactique des langues vivantes. Sur le primaire, ça m'a sauté aux yeux. C'était impressionnant. Je viens du secondaire, mais quand j'ai commencé à mettre le pied sur le primaire, mais tout est là. On enregistre, on vocalise les supports écrits communs avec le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure. On apprend aux collègues à faire des techniques de feedback et de vérification et de correction autour de la compréhension orale et de la production orale. Ou avec des lycéens, on met en place des techniques de médiation informatique. On les augmente. Il y a une réalité augmentée, les élèves aussi peuvent être augmentés. En tout cas, il s'agit de mettre à niveau l'aide vers la didactique traditionnelle et puis d'établir des ponts avec la scolarisation antérieure. Parce que faire des maths en italien, c'est la même chose que de faire des maths en français. Pas tout à fait, mais bon, on en parlera demain. Toujours faire entendre aussi la langue de l'autre dans ces circonstances. Et aider les participants à mesurer les écarts linguistiques. Il y a des grandes constantes à montrer sur les langues alphabétiques, comme je vous l'ai dit, mais il y en a d'autres. Apporter une pensée systématique sur la langue de l'autre et ne pas rester à la surface. Alors, ça, c'est du boulot d'expert, mais l'expertise, elle est à portée de main. Je pense à l'aménagement linguistique du monde de l'Université de Laval au Québec, qui vous dit exactement, je vous conseille d'ailleurs le chapitre sur Mayotte, qui vous évitera d'avoir à rencontrer sans arrêt « Ah non, mais les élèves sont français, donc ils ne relèvent pas de l'allophonie. » Enfin, ce genre de... Non, il y a un vrai aussi, il y a une vraie question linguistique à Mayotte. Et puis, il y a le Wikilang qui est extrêmement utile et pas besoin d'être spécialiste pour comprendre et pour commencer à réfléchir. De toute façon, on a l'élève, on a le savoir, on a l'accès au savoir. On compare et ensuite, il s'agit de mettre à portée ce qu'on observe. Il ne s'agit pas de faire une description complète de ce que produit l'élève. En tout cas, il ne faut pas le faire seul, il faut le faire avec l'élève et le professeur ou le groupe de professeurs. Il faut aussi poser les élèves comme experts de leur langue. Ça ne sert à rien de parler de la langue devant l'élève s'il ne peut pas l'utiliser, s'il ne peut pas le lire devant son professeur. Il s'agit de montrer aussi ce qu'il sait faire dans cette langue. Parce que très souvent, le professeur ne l'a jamais entendu en vrai, n'a jamais entendu parler. Et puis, leur permettre de s'exprimer sur leurs difficultés nouvelles. Parce que ce qui me frappe aussi, c'est que la même question a toujours la même réponse. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment à l'école en France? Dis-moi, dis-nous. On n'écrit pas comme on parle. Et dans ta langue, on écrit comme on parle? Oui, bah montre-nous. Regardez, tac, tac, tac. Voilà, ça calme la question, ça éclaire l'insu. Même principe sur le positionnement scolaire. L'école d'avant, ça se raconte très bien quand on ne va pas chercher ce qui s'est passé aussi à la maison. On apprend à mettre en place un questionnement. On préfère le « qu'est-ce que tu as fait » plutôt que le « c'était comment ?». Et puis, on choisit des objectifs précis pour chaque question, chaque action. Par exemple, on va vérifier la lecture en langue d'origine. Et moi, je réfléchis, je me dis, je vais montrer ça parce que je veux savoir si c'est le faire, y compris si c'est pas le faire ou si c'est pas faire grand chose, qui est une situation rare, ce sera un élément pertinent que le professeur comprendra plutôt que de dire, bon, il sait rien faire, enfin bon. Ça peut se faire en muet, évidemment, quand on n'a pas de langue de communication. C'est quand même rare hein, de ne pas avoir de langue de communication. Ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas. Mais même avec des manuels, ça tu connais, tu as déjà fait, tu connais. Enfin, on a quand même une idée de ce que l'élève a déjà rencontré en termes d'outils transversaux, de compétences scolaires. Et je vous dis, ça, ces situations, elles sont rares. On s'est coltiné une situation avec des élèves qui parlaient au romo. Et même dans ces circonstances, ils venaient des camps de réfugiés du Somaliland et eux venaient d'Éthiopie. Et le romo est une langue minoritaire, évidemment, dans le système pyramidal éthiopien. Eux sont le fond de l'affaire et se sont évidemment réfugiés dans un pays qui ne va pas mieux. Et donc les gosses sortaient de camp et n'avaient pas de langue. Et donc on a dû jouer, nous, à trouver la langue quelque part. Mais les missionnaires s'en étaient chargés. Ils avaient tout transcrit en caractère latin. Et c'est là où on s'est rendu compte que l'histoire d'Adam et Ève, le gamin était capable de le lire. Mais on l'a fait avec un professeur, on l'a fait en groupe, on l'a fait en équipe et surtout on était autour des enfants et pas une rencontre frontale derrière une table. Il s'agissait d'avancer sur la compréhension de ce qui se passait. Ce qui est important aussi, c'est de rester un enseignant ordinaire soi-même. On sait ce qu'on fait dans les classes quand on est dans des UPE2A. On sait ce qui se passe dans les disciplines et quand on ne sait pas, on demande. C'est ça aussi l'important, c'est d'être à l'écoute de l'expertise professionnelle des gens avec qui on travaille. On doit voyager dans le savoir professionnel de l'autre. C'est une façon de le reconnaître aussi comme interlocuteur viable, expert. C'est une façon aussi de le libérer de cette situation d'incommunicabilité. Et c'est aussi une façon de construire pour nous notre propre expertise. Moi, c'est très important de savoir ce qu'on fait dans les ateliers lingerie des CAP où se retrouvent nos élèves, finalement, en partie. Un exemple des partenaires que j'ai eu le mois dernier dans mon activité, mais mes collègues pourraient dire la même chose. J'ai rencontré des parents, des rasettes, toujours avec des élèves, des professeurs de toutes disciplines, professeurs des écoles, un expert CASNAV en langue albanaise, un IEN, une direction d'école, deux CPE, trois professeurs d'atelier, deux éducateurs scolaires, un COP et deux assistants d'éducation, voilà avec qui j'ai travaillé autour de situations d'élèves en présentiel le mois dernier. L'idée est de déplier publiquement l'individu et de le révéler par des opérations qui, quelquefois, semblent relever de la magie. Vous faites un truc et le prof dit « j'y avais jamais pensé ».« Ah, je savais pas que c'était ça ». Henri Michaud dit que l'enfant naît avec 22 plis. Et il est écrit dans une de ses poésies dont le nom m'échappe. La race blanche voit plus le noyau que le dépli. Le mage, lui, voit plutôt le dépli. Le dépli seul est important, le reste n'est qu'épiphénomène. Bah, former, c'est ça, former des collègues, c'est déplier l'élève devant eux, l'élève qui est froissé, hein, on ne sait pas par quel bout entrer, par quel bout le prendre, c'est le déplier devant, aider le professeur aussi à le déplier avec nous, et c'est une façon de montrer le chemin vers l'altérité. En tout cas, il y a toujours quelque chose à montrer pour faire entrer l'élève dans le cercle et dans le sentiment de son professeur. Ceci dit, le travail mené doit déboucher sur une formulation systématique de compte-rendu, de projets individualisés, experts comportant des aménagements validés, et la prise en charge doit être intéressée. On ne travaille pas gratuitement. Quand on demande dans les lycées professionnels ou dans les lycées généraux de faire du soutien linguistique, le CASNAV apporte des HSE. Il faut aussi trouver, et c'est dans ce contexte-là qu'on va trouver et de l'expert et de l'aide. Et l'intérêt, c'est aussi que le projet réussi modélise ce qui va se passer pour les suivants. Et j'ai encore 5 minutes pour terminer ma conférence avec mon cinquième point. Pourquoi travailler en écosystème ? Parce que l'inclusion concerne l'action et la réflexion de l'ensemble des acteurs. Et ça implique la mise en œuvre d'une politique linguistique académique à un niveau général. Voilà, vous êtes devant l'onglet ressources élèves allophones du CASNAV de Besançon. Outils de positionnement et d'accompagnement des élèves allophones arrivants. Et en fait, ça, vous avez à l'intérieur de, ce, de cette série de téléchargeables les documents de médiation coproduits, les normes techniques dynamiques et qui impliquent l'ensemble du système. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une discussion, c'est aussi la production de vrais outils. Je vais vous donner l'exemple d'une, documentation utilisée comme levier en allant sur le site. Celle-ci, suivi des élèves allophones. On a un document de suivi inter-établissement. Ce document fait l'objet d'une politique qui a 4 ans d'âge. Sur l'Académie de Besançon, nous suivons l'ensemble des élèves issus des dispositifs. On les suit et on met à la rédaction nos collègues des UPE2A. Il y a une synthèse de la scolarisation antérieure, une biographie scolaire détaillée en UPE2A, une durée totale de prise en charge et des commentaires sur l'inclusion en classe ordinaire. Il y a les qualifications obtenues pendant le passage en UPE2A. Il y a un positionnement linguistique clair sur les langues premières, langues de scolarisation antérieure, français, autres langues utilisées. Et puis une biographie langagière détaillée des conséquences scolaires. C'est fou de le dire. Si l'élève est turcophone, vous êtes devant une langue qui est une des plus éloignées de toutes les langues présentes dans l'espace européen. Et ça a des conséquences matérielles que vous pouvez observer tous les jours. Ce n'est pas des fautes d'orthographe, c'est de la langue. Donc, on rédige des recommandations et puis surtout, on a des tableaux de préconisation normés pour l'ensemble de l'académie, déclicables, vous les retrouverez aussi, qui disent « il est autorisé à utiliser tel logiciel, il est autorisé à enregistrer le cours, vous donnez des photocopies des cours prises dans les cahiers classeurs d'élèves comme support à la correction des cahiers en soutien linguistique, vous faites ci, vous faites ça, et ça, c'est des choses sur lesquelles on se met collectivement d'accord. Je vais vous dire de quelle façon. Voilà ce que ça donne une fois que c'est complet. On en a aussi un exemple rédigé en ligne. Vous le trouverez tranquillement. Hein. On va pas. Je vous les ai anonymés. Enfin, on les a anonymés. Et là, vous avez les commentaires sur un enfant qu'ils appellent Dritian. Oui, petite chose aussi importante, c'est validé CNIL. Hein. On est en règle par rapport à la Commission nationale informatique et liberté sur le suivi de nos élèves sur l'ensemble de l'académie. On a pris soin de ne pas publier autour de nos élèves des informations qui pourraient les mettre en danger. Et par contre, voilà une collègue, par exemple, qui décrit aussi les compétences linguistiques, par exemple, de Dition en albanais, et puis ce qu'il a acquis, etc. Mais vous regarderez ça, je vais pas... Vous aurez le temps de regarder ça vous-même. En tout cas, cette politique, elle correspond tout à fait au suivi à long terme des élèves allophones en lycée, ce que l'IGEN Catherine Klein avait publié en 2009 et qu'elle appelait le suivi à long terme des élèves allophones en lycée, dans son rapport au ministre en 2009. Ah non, elle appelait ça le projet personnalisé de réussite scolaire, pardon. On est resté sur cette idée-là, c'est-à-dire on met en place un bilan linguistique et scolaire en sortie de dispositif. On diffuse un document de suivi inter-établissement dans tous les bahuts. Et puis, alors qu'on centralise, qu'on renvoie aux établissements, ça nous permet de savoir où sont les élèves. Et puis ensuite, les chefs d'établissement nous saisissent pour des demandes de formation et des demandes de moyens. Donc on se déplace et là, on observe les situations et on repère les ressources. Et on travaille, comme je vous l'ai dit, la plupart des... on va pas refaire le coup du tout va bien et tout se passe bien, pas du tout. Ça, c'est une démarche d'intervention. Je vois les collègues qui rigolent, mais c'est une démarche d'intervention. On y va, faut y aller. Et la façon d'y aller, c'est ils existent, ils sont là, on nous a envoyé un papier. Les chefs d'établissement, la première année, ils savent pas à quoi ça sert. Au bout de la quatrième, ils nous appellent et nous disent on en a 5, on en a 6, qu'est-ce qu'on fait? On a des heures, on a du soutien et on a de la formation à vous apporter. L'idée est alors, ça c'est la mécanique, mais l'idée implicite qui était aussi derrière ces formulations, on pourrait qualifier ça de bureaucratie, hein, mais on l'a déjà présenté ici une première fois et on a avancé depuis. En fait, l'implicite qui est derrière, c'est que ça met nos collègues dans les UPE2A en position de rédacteur, en position d'experts, ce qui ne sont pas dans les faits, très rarement. Ça les met aussi en capacité de réinvestir ces outils, puisqu'ils les préparent toute l'année, de les réinvestir directement auprès de leurs collègues dans les établissements disposant d'un dispositif. ça dynamise les pratiques d'inclusion. Ce petit tableau que vous avez vu et qui est aussi présent à un autre endroit, je crois que c'est celui-ci, le voilà. Celui-ci, il est utilisé partout, on n'arrête plus de le voir. Il est dans le cahier de texte des enfants, il se déplace avec, il dit « je peux faire ça, je peux faire ça ». Les équipes signent, les chefs d'établissement signent. Quand, une fois que c'est écrit, on se pose moins de questions par rapport à l'utilisation du téléphone en classe. Donc vous irez voir tout ça, mais et c'est modifiable et adaptable. Hein, et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Versailles. Versailles aussi, qui a réutilisé, j'étais très heureux de le voir, mais on a été aussi de cette opération-là, proposer aussi des aménagements aux épreuves anticipées de français en lycée, et des conseils et ce que vous avez entendu hier de la part de nos collègues. Bref, vous irez faire un tour sur notre site. En tout cas, ces outils de suivi inter-établissement permettent une chose, c'est d'apporter de la formation aux équipes de façon dynamique et dans des écosystèmes dans lesquels on ne serait pas entré autrement. Si vous frappez à la porte et vous dites « est-ce que vous avez des élèves allophones ?», ça ne marche pas comme ça. On les identifie et on intervient. On a un groupe de travail sur ce sujet pour le premier degré qui est au travail aussi pour produire ce type de préconisation. Et je sais que ça rejoint les préoccupations nationales, puisqu'il y a un groupe de travail à la DGESCO qui se réunit le 18 décembre sur le même thème du suivi des élèves du premier degré. En conclusion, puisqu'il est temps, je profite De cette tribune aussi pour rappeler que Serge Moscovici, le sociologue qui vient de disparaître, avait posé une théorie des minorités actives et je voudrais m'appuyer sur lui pour ma conclusion. Donc on travaille sur des problématiques minoritaires, mais qui sont quelquefois des situations majoritaires dans nos établissements, en ce qui concerne l'allophonie par exemple. Et Serge Moscovici avait posé deux concepts, moi, qui me semblent très utiles, en tout cas, dans la pensée d'un collectif autour du français langue seconde, français langue de scolarisation, de tout ce que font les enseignants du PE2A ou ce que font nos collègues des CASNAV, ce qu'on fait collectivement autour de cette question de l'allophonie. Par rapport à la minorité active, voilà ce qu'il disait, les minorités, alors je vous donne les définitions, hein, les minorités sont généralement considérées comme des récepteurs d'influence ou des déviants, mais elles peuvent être étudiées aussi en tant qu'émetteurs d'influence et créateurs de normes en puissance. Alors il pointait différents types de minorités, dont les minorités nomiques, les minorités actives, vous trouverez tout ça sur Internet, hein, ça ne vient pas d'ailleurs non plus, des individus minorités actives, donc des individus ou des sous-groupes qui prennent une position consciente, distincte, par contraste ou par opposition avec le système social plus vaste. Et puis, il parle aussi de minorités actives hétérodoxes, contre-normatives. Alors, ces minorités s'opposent donc à une norme minoritaire et des expériences ont montré qu'une minorité hétérodoxe est plus influente quand la divergence par rapport à la majorité ne dépasse pas un certain seuil. C'est-à-dire on est bien dans une position de minorité, on est contraint dans un cadre institutionnel et le danger évidemment est là, c'est-à-dire que si on dépasse le seuil et qu'on devient l'avocat à tout craint, pas construit et pas étayé de nos élèves, c'est-à-dire pas expert, eh ben on entre dans une situation dangereuse, c'est-à-dire quand la minorité devient extrémiste, ses chances d'influencer la majorité diminuent. Et ce qu'il dit aussi, c'est que ces traits distinctifs sont nécessaires à la minorité si elle veut devenir une source active d'influence. Mais ils ne sont pas suffisants. Il lui faut encore être socialement reconnu avec ses propres qualités spécifiques par la majorité. C'est peut-être dans ce sens-là que va la certification complémentaire ou la partie FLE du CAPES. Mais je pense que, en tout cas, au niveau des CASNAV, on peut encore aller plus loin en termes de reconnaissance. Et cette minorité doit être motivé pour obtenir, préserver ou même accroître sa visibilité et faire connaître son existence par la majorité. Elle ne doit négliger aucun effort pour se faire remarquer, identifier, écouter. C'était Serge Moscovici qui dit ça à propos des minorités actives comme puissamment influentes dans les sociétés. Mais si on regarde bien, dans toute la production, et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur cette affiche à l'entrée était, enfin, à mon avis, assez parlant. Si on regarde bien la production institutionnelle, ces questions qui sont pourtant centrales et dans le débat public et dans peut-être les temps à venir qui seront centrales, ces questions de migration, ces questions de l'autre dans la République, pour l'instant, des positions expertes fondées sur la langue et sur du technique et sur de l'expert, ben, il n'y en a pas tant que ça. On ne la voit pas. Et voilà. J'espère en tout cas qu'on est tous ensemble une minorité active.